contrôle à distance, il est. Le stylo, non. Crayon, non. Merci beaucoup. Bon matin, frères et sœurs. Vous allez bien?
Amen.
J'espère que vous allez bien. C'est toujours bien ici, hein? Je me rappelle une phrase de M. Bernier qui disait, quand il était tout petit, il disait qu'il était assis à la table du Seigneur, puis il disait, « Ici, là, je me sens en sécurité. Il n'y a personne qui va m'attaquer, je suis certain. » Eh bien, c'est bien de se sentir bien dans un endroit comme ça, entouré de frères et de sœurs, bien accompagné. J'aime mon Église, et merci Seigneur, je peux donner. Il m'est arrivé à un moment donné dans ma vie de me ramasser complètement l'autre côté du pays, en Californie. Et mon but était de revenir ici. Et il y avait un problème, mon compte de banque et mes poches étaient à zéro. Ça va assez mal pour mettre du gaz dans le char. Mais, mon épouse et moi, on priait. On disait, « Seigneur, si tu veux qu'on parte, tu vas emmener des sous. Je peux boire dans ta bouteille, jeune homme? » Ouais. C'est la seule qui m'est à ma disposition. À ce stade, peut-être que toi, tu ne boiras pas dedans. de toute manière, et on priait, « Brian, Seigneur, si tu veux qu'on retourne chez nous, il va falloir que tu fasses de quoi? » Et le Seigneur a répondu à travers un frère André. Pas celui de l'oratoire. Tu te rappelles, André? Tu te rappelles de ça? Et notre frère, je ne sais pas pour quelle raison, il a appelé cette journée-là, la journée qu'on priait. Et puis, il nous a donné un certain montant pour qu'on puisse continuer. C'était une bénédiction, là. Et j'aime le citer parce qu'on aime ça dire les choses bien que le Seigneur a faites avec nous à travers les frères et les sœurs. Mais, de toute manière, on part avec le voyage et puis on commence. Puis on s'était fait des amis là-bas en Californie, on est resté quand même un an. Et on avait un couple d'amis qui s'appelait Pablo et Melissa. Et durant qu'on était en Californie, eux ont eu une promotion, lui a eu une promotion, il est allé travailler à Minneapolis, au Wisconsin. Et on a dit, lorsqu'on va s'en retourner, c'est sur notre chemin de retour, on va aller voir. Ah oui, t'es bien content. Mais finalement, on arrive à Minneapolis. Et là, le compte de banque s'en venait un peu bas, là. On s'est dit, on ne sait pas si on va réussir à finir le voyage. Mais encore là, hein, la même action. On se met devant le Seigneur, on prie, on se dit, OK. Puis, nous, la manière que l'on était, je ne sais pas si vous avez une mémoire de la carte, là, vous avez le lac Michigan, vous avez Chicago qui est en bas. Minneapolis, c'est au nord-ouest de Chicago, qui se trouvait être en haut du lac Michigan. Fait que moi, j'appelle pour savoir si je pourrais prendre une traverse pour traverser le lac Michigan, ça me sauverait ça en gaz. Je dis, je pourrais sauver assez d'argent, peut-être que j'arriverai à la maison. J'appelle des personnes, j'ai réussi à trouver la traverse qui existe. Et là, ça monte à 200$ pour traverser. On va oublier ça. Ça ne coûtera pas 200$ d'essence. Que je dis, on oublie ça. Ça reste comme ça. Pablo, quelques minutes après, il m'appelle, il dit, « Hey, j'ai quelque chose à te montrer. » Il dit, « En ville, c'est très, très beau. Viens avec moi. » Ben, je dis, « OK. » On embarque à son auto, on s'en va. Il passe à sa banque, il retire 200$, puis il me le donne. Il dit, « Tiens, tu ne vas pas la prendre, la traverse. » Ah, je dis, « Je ne pense même pas avec ces 200$ que je vais la prendre. » Il dit, « Tu fais ce que tu voudras, c'est à toi. » On revient à la maison. Puis là, Pablo, il rentre dans la maison, tout naturellement, il dit à Mélissa, il dit, « Hey, Mélissa, j'ai donné 200$ à Denis, pour prendre la traverse. » Je vois encore la jeune femme assise sur le milieu de son divan, qui dit, « Ah! Hey! On a pu donner! Hey! Je suis contente, on a pu donner! » La joie de donner. Hey, je dis, j'étais plus mal à l'aise de recevoir que elle de donner. Hey, je dis, « C'est quoi l'histoire, cette joie-là? La joie de donner? » Ça existe. J'en étais témoin. La joie de donner. Le but de la réflexion ce matin, c'est d'abord de se remercier. De se remercier pour le fait que nous donnons au Seigneur. Parce qu'à chaque fois que nous mettons de l'argent dans une enveloppe et que nous le mettons, une chose, on s'aide les uns les autres. Donc, vous devriez, aujourd'hui, officiellement, vous lever et remercier la personne autour de vous parce qu'elle l'a donné. Hein? Pourquoi pas? C'est quelque chose qui se fait, ça. Fait que je te remercie. Hey, vous êtes gêné. Je te remercie. Je te remercie de donner. Merci de donner. Merci de donner, mon frère. Merci de donner. Merci beaucoup. Merci de donner. Merci de donner, Petra. Merci de donner, mon homme. Merci de donner. Merci beaucoup de donner. Merci. Merci de donner. Puis pas juste de l'argent. Merci. Merci beaucoup. Merci, sœur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bien. Bon, tout le monde a passé au remerciement. C'était appelé et passé. C'est bien. Non, c'est vrai. C'est bon de donner, mais c'est bon de dire merci aussi. C'était appelé et passé. La deuxième but, c'est de réaliser, d'abord, premièrement, ce qu'on vient de faire, ce n'est pas de se monter en orgueil comme quoi je donne, mais plutôt de réaliser, d'apprécier qu'est-ce que le Seigneur a mis dans chacun de nos cœurs. Le fait de donner, là, c'est pas de tout. Le fait de donner pour le Seigneur, ça vient du Seigneur. Et le Seigneur met dans notre cœur ce goût-là de donner. Et cette joie-là de donner. Deuxième but, c'est que j'aimerais que l'on découvre ensemble, que l'on réalise qu'il y a une joie. OK, je n'ai pas le moniteur ici, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas comment l'allumer, c'est correct. J'aimerais qu'on découvre la joie réelle et profonde de donner à Dieu. Il y a une joie à donner. Dieu veut nous la faire vivre à travers notre libéralité. C'est bien? Merci, Billy. Dieu nous donne cette joie-là, réelle, qui est à l'intérieur de notre cœur, lorsque l'on donne. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'on donne? Lorsque l'on donne, d'abord, nous sommes dans la joie lorsque nous donnons. Nous sommes dans la joie, premièrement, parce que nous atteignons le but. Nous sommes dans la joie parce que nous atteignons le but. C'est quoi ce but-là? Ce que l'on doit comprendre, c'est que Dieu nous a créés à son image. Dans Genèse 1:26, Dieu nous dit, « Nous faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » L'intention de Dieu de mettre au monde une créature unique qui ressemblera à aucune autre, qui va lui ressembler. Et chaque homme, chaque femme qui est mis sur la terre depuis Adam jusqu'à aujourd'hui a ce critère de base de ressembler à Dieu. Dieu, dans ses premières conversations avec Adam, aurait pu tenir ce discours-là comme un père avec son enfant. « Je t'ai créé afin que tu me ressembles. Je vais t'enseigner, je vais te convaincre, je vais te corriger, je vais t'instruire pour que tu en viennes à me ressembler toujours de plus en plus. » Et l'homme, en dedans de lui, a tout ce qu'il faut pour en arriver à ressembler à son Créateur. Il a tout, il est complet, il est parfaitement équipé. Aucune autre créature sur la terre a cette possibilité-là, même la plus intelligente. Je disais dans un article que c'est le dauphin qui est le plus intelligent. Cette valeur, mais le dauphin n'est pas capable de ressembler à Dieu. Il va de soi que le bonheur de l'homme réside dans le fait d'être à la ressemblance de son Créateur. C'est logique. Ça tombe sous le sens. Le but de l'homme est de ressembler à son Créateur. Pourquoi? Parce qu'il en est capable, premièrement. Il a été fait pour ça. Deuxièmement, il va de son bonheur. Il a déjà le but. Et s'il atteint le but, il est heureux. Mais, situation horrible qui vient compliquer le projet, la chute, le péché. La première conséquence du péché, c'est la coupure de la communication. La relation n'est plus la même. Et c'est une condition indispensable entre le Créateur et la créature qui veut ressembler au Créateur d'avoir une relation parfaite. Si je n'ai pas cette connexion-là, comment je vais faire pour ressembler à Dieu? Et ça le prend. Mais le projet de Dieu n'est pas abandonné. Dieu veut encore, malgré tout, il désire encore que l'homme lui ressemble. C'est encore dans ses buts. L'homme, même si son cœur est envahi par le péché, même s'il est souillé, l'œuvre de Dieu y est encore présente dans le cœur de l'homme. Ça ne change rien. Et l'Évangile nous permet d'être conscients de ce que Dieu a mis en nous. J'aimerais, à ce moment-ci, ouvrir une parenthèse. Je disais que l'Évangile nous permet d'être conscients de ce que Dieu est et de ce que Dieu nous demande. Il se peut qu'à l'intérieur de l'Assemblée ici, il y ait des gens qui n'aient pas pris cette position-là, de vouloir remettre la relation avec Dieu au beau fixe. Il est important, là, de prendre la décision de revenir à Dieu et de rétablir la communication avec Dieu par le message de l'Évangile. Il est important de le faire et il n'y a pas de meilleur moment que tout de suite pour le faire. Et si, à quelque part, vous en avez le goût, à la fin du message, pas de suite, ça va me couper, à la fin du message, allez voir quelqu'un de confiance si vous voulez être accompagné. Mais c'est important. Fin de la parenthèse. Je disais que l'Évangile nous permet d'être conscients de ce que Dieu est, de ce que Dieu nous demande. Mais quel est le rapport entre la ressemblance à Dieu et atteindre le but? Bien, voilà un autre lien que nous avons. C'est que Dieu nous a fait à son image, je disais. Donc, si c'est une photo du musée de la création à Cincinnati, très beau musée en passant, où j'ai été béni de visiter ce musée-là, et je vous souhaite d'aller le visiter un jour. Et cette photo le montre la ressemblance entre Dieu et sa créature. Dieu est beau, et nous demande de l'adorer. Dieu est miséricordieux, et je vous traduis là, le texte, là. Okay? Dieu est miséricordieux, il nous demande d'être miséricordieux. Dieu est pur, il nous demande d'être pur. Dieu est amour, il nous demande d'aimer. Dieu est un Dieu de paix, il nous demande de rechercher la paix. Dieu est un Dieu de salut, il nous demande de proclamer son salut. Dieu s'est sacrifié pour nous, il nous demande d'être des sacrifices vivants pour lui. Et finalement, voici le lien. Dieu est un être généreux. Il nous demande aussi d'être généreux. Dieu est un être généreux. Sa création le démontre. Sa parole nous l'affirme. Regardez sa création, comment est-ce qu'elle est généreuse. Elle donne à profusion. Je suis toujours surpris de voir comment est-ce que mon jardin produit. Cette année, j'avais tellement de pommes dans mon pommier qu'il a déraciné. Dieu donne à profusion. Et ce n'est pas que physique. Dieu, on n'a pas encore toutes vu les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes que Éphésiens nous parle. On n'a pas encore vu les gloires à venir qui ne se comparent pas aux souffrances des temps présents. Dieu est un être généreux. Et lorsque nous sommes généreux selon Dieu, nous atteignons le but. Il est content de finir, ce gars-là. Il est content d'avoir atteint le but. Dieu, nous atteignons le but que Dieu a formé sur sa créature et en même temps, nous approchons du bonheur que Dieu avait pour nous à la création. Plus nous approchons d'être semblables à Dieu, plus notre bonheur est évident. Première raison. Deuxième point. Nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que cela plaît à Dieu. C'est une évidence. La vision que l'on a parfois de Dieu peut être biaisée par notre vécu. On peut voir Dieu comme un juge implacable ou un Dieu sévère qui demande beaucoup. Ça peut être notre vision de Dieu. Dans la parole, l'image la plus fréquemment utilisée pour présenter Dieu est celle d'un père. Plusieurs endroits dans la Bible où ce qu'il va dire, « Je suis votre Père céleste et vous êtes mes enfants. » Et bonne ton nom. À cause de notre passé, le langage paternel de la parole de Dieu peut être un obstacle. On sait ce qu'un père doit être. On sait qu'un père, l'amour d'un père est un amour inconditionnel. L'amour envers ses enfants, un père doit être impliqué. Un père doit pourvoir aux besoins de ses enfants. Et peut-être que ça n'a pas toujours été le cas. Peut-être vous avez été déçu de votre père. Peut-être vous avez été amèrement déçu de votre père. Et on a tendance, et c'est prouvé, c'est dit souvent, on a tendance à reporter cette déception-là sur Dieu. Parce qu'il est notre Père céleste. Mais si on met de côté tous ces désappointements-là, si on met de côté tout ce qui s'est passé dans le passé, comme les pères imparfaits que je suis, les pères absents, les pères sévères, on peut regarder notre Père céleste comme celui qui a un amour parfait, comme celui qui pourvoit parfaitement. C'est David qui dit dans le psaume 27, 10, « Même quand mon père et ma mère vont m'abandonner, Dieu va me relever. Dieu sera constamment auprès de nous, même lorsqu'on sera seul. » Il existe un mot que l'on connaît très bien dans la parole de Dieu et qui fait beaucoup plaisir à lire, qui définit la relation de Dieu le Père et de ses enfants, c'est le mot « Abba ». On sait tous ce que ça veut dire « Abba ». Ça veut dire quoi? Papa. C'est ce qui nous donne une autre réalité. Je faisais une farce lorsque mes enfants étaient plus jeunes. On disait aux enfants, « Maintenant, vous allez nous appeler père et mère. Bonjour, père. Bonjour, mère. » Ça faisait vraiment dur. On riait de ça. Ça faisait dur de dire ça. Mais ça n'a pas tenu longtemps. Au bout d'une journée, je dis, « Arrête. Ça me tombe sur les nerfs. Appelle-moi papa, au moins. » Papa reflète une intimité. C'est quelque chose de particulier. J'appelais pas mon père, père. J'appelais, hey, pa! Et Dieu désire cette proximité-là. Dieu désire être impliqué et être aimant. Parfois, les idées que l'on se fait sur Dieu ne sont pas selon ce qu'ils sont. On peut penser quelque part, hey, Dieu, il veut que je donne tout mon argent, là, puis je suis pas d'accord. Ou Dieu veut que. Dans Luc 21, une histoire que l'on connaît tous, l'histoire de la veuve, je vais vous le lire. Dans Luc 21, la tablette est longue ce matin, donc soyez patients. Luc 21, au verset 1, et ces quatre petits versets. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis son nécessaire et tout ce qu'elle avait pour vivre. » c'est une histoire très bien connue. Cette vieille dame qui met deux petites pièces. Mais qu'est-ce que le Christ et le Père ont vu? Ils ont vu des hommes riches qui mettaient beaucoup d'argent dans le tronc. Et probablement que lorsqu'ils mettaient de l'argent, ça faisait boum, 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 bam, boum, ça tombait, puis ça faisait du bruit, puis tout le monde se tournait et disait waouh, waouh, s'il en a mis, lui. Et ce que Christ, ce que Dieu a vu, c'est la veuve qui a mis deux petites pièces. Probablement qu'après le spectacle de l'argent tombé dans le tronc, tout le monde s'est tourné, on dit OK, c'est correct. Mais la veuve a mis deux petites pièces. Mais Dieu l'a vu. Et Dieu l'a regardé et il l'a vu, ça. Peut-être que personne d'autre que Dieu l'a vu. Mais Dieu l'a vu. La valeur de cet argent-là, deux pièces, ou dans une autre version, ils disent deux pites. La valeur de ce don est d'environ 6 minutes de travail d'une journée dans ce temps-là. 6 minutes. C'était la valeur. C'est pas grand-chose, hein? Je dis, je vais consacrer 6 minutes de ma semaine, de ma journée, à Dieu. OK? Mais ils ont mis votre 5 cents parce que vous n'êtes pas capable de mettre des cents noirs, hein? Mais vous ayez mis votre 5 cents, ça va être tout. Mais Dieu tient compte de cela. Le don de cette dame-là a une portée éternelle dans sa valeur. Mais quelle leçon qu'on doit en tirer de cela? Dieu n'a pas regardé la valeur monétaire du don. Dieu a regardé le cœur, comme un père regarde le cœur de son enfant. Je me rappelle, l'automne passé, je rentrais mon bois, puis mes petits-enfants étaient autour de moi. Puis Abigail avait 3 ans. Puis moi, je rentrais du bois, je mettais du bois dans brouette, j'en mettais plus qu'il n'en faut même, puis j'en mettais, puis ça rentrait le bois. Puis elle dit, je vais t'aider. Fait qu'elle prend une bûche, oh, trop pesante. Elle prend une autre bûche, qui était peut-être grosse comme ça, puis elle la prend dans son hibron même, puis elle va l'amener. Elle a fait ça peut-être 10 fois. Probablement que le bois qui est rentré, j'aurais pu le rentrer dans une brassée, une petite brassée. Mais j'étais content de voir qu'elle allait avec sa capacité. J'étais fier de voir qu'elle avait fait la même chose que moi. Elle m'avait imité. Elle avait voulu donner sa contribution. Le peu qu'elle avait donné, c'était énorme. Peut-être que vous êtes dans une passe difficile aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans une situation financière où les fins de mois arrivent trop vite. Possible. Peut-être que vous croyez que votre don n'est pas aussi important que vous voudriez. Mais le Père Céleste ne regarde pas à la valeur monétaire, mais il regarde au cœur. La générosité n'est pas une question de montant, mais d'attitude. Dieu aime autant les riches que les pauvres. Et celui qui est béni matériellement par Dieu, qui a la même attitude de cœur que celui qui n'a pas d'argent, Dieu se réjouit, Dieu est content. Le montant ne sert pas à acheter les faveurs de Dieu. Dieu ne nous aime pas plus si on donne plus. Dieu nous aime parce que nous sommes ses enfants, point. Et Dieu peut nous avoir placés dans une situation difficile parfois. Comprendre certaines choses. Peut-être que vous dites, « Ah, j'aimerais ça, Seigneur, t'en donner plus cette semaine. C'est tout ce que je peux te donner. » Mais le Seigneur, il dit, « T'as le point. Tu donnes. » Et c'est ça qui est important. Lorsque nous donnons avec la bonne motivation, Dieu est heureux. Lorsque nous agissons avec générosité, lorsque nous avons le cœur sur la main, Dieu est content. Le verset 4 de 3 Jean, 3 Jean 1, 4. Il n'y a pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité a autant de valeur pour le Père Céleste que pour nous. De voir, quand Dieu voit que ses enfants marchent dans la vérité, quand il voit que ses enfants sont généreux, Dieu est content, Dieu est réjoui. Il aime notre générosité de cœur parce qu'il nous a créés afin que nous soyons généreux. Autre point. Nous sommes dans la joie lorsque nous donnons parce que nous changeons notre perspective. Ouh! Qu'est-ce que ça peut bien faire, là? Il vous est certainement arrivé de regretter un achat. Si ça ne vous est pas arrivé à vous, ça m'est arrivé à moi. Soit qu'il ne répondait pas à mes attentes, ou lorsque je reçois mon compte, je réalise tout d'un coup que oh, ça ne valait pas la peine de payer tout ça. Ou encore, vous vous êtes attardé devant votre téléviseur le soir, vous ne vous endormiez pas, vous avez continué à écouter la TV. Puis là, on vous a montré un produit fantastique. Dans une vente promotionnelle inouïe. Puis là, vous avez flanché devant l'incroyable promotion qui vous était offerte. Puis vous avez sorti votre carte de crédit, puis vous l'avez achetée. Le lendemain, rempli de remords, vous expliquez à votre conjoint ou à votre conjointe que vous étiez dans un état de faiblesse puis que vous n'avez pas pu résister à la tentation. Puis là, votre conjointe vous encourage, vous réconforte en vous disant « Tu n'avais pas d'affaires devant la TV. » Les regrets face à notre consommation existent. Ils sont plus ou moins selon les gens, mais ils existent. Il y a même des nuits blanches qui sont arrivées à cause que j'aurais jamais dû acheter ça. À l'inverse, je ne crois pas qu'il y ait une nuit blanche à cause d'un don que l'on aurait fait. Parce qu'au fond de nous-mêmes, on sait que la générosité vaut le coup. Vous n'entendrez jamais dire les gens, « Hey, j'espère que tu n'as pas contribué à ce voyage missionnaire-là, toi. » Ou « J'espère que tu n'as pas signé pour aider les gens, les enfants dans le besoin dans le temps de Noël. » Hey. Ou encore, j'espère que tu n'as pas décidé de parrainer un enfant au Kenya ou au Congo ou n'importe où dans le monde qui crève de faim. Vous n'entendrez jamais des gens dire ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qu'ils pensent. Dans le fond de leur cœur, les gens sont généreux. Et les enfants de Dieu, encore plus. Les médias nous informent avec acharnement que nous avons de grands besoins. Moi, c'est le spot rouge en haut, là. Je l'aime bien, lui. 3 millions, quelque chose comme ça. On a de grands besoins. Ou un chalet d'été. Hein? Notre accomplissement ne se retrouve pas dans cela. Peu importe la beauté de la bebelle. Parce que c'est juste des bebelles, ça. J'ai rien contre ceux qui en ont, là. Absolument rien. Si vous êtes capable de vous en payer une, tant mieux, puis c'est le fun. Si j'étais capable de me payer celle en rouge, j'irais chercher. Mais ce n'est pas dans cela que je vais m'accomplir. Ce n'est pas dans cela que je vais faire à quelque part que je vais avoir une satisfaction de cœur, que mon cœur va être réjoui. Mon corps, oui. Et mon cœur, non. Et si mon cœur est réjoui, ça va être pour un peu de temps. À l'inverse, écoutez des missionnaires qui reviennent de mission et qui expliquent comment la parole de Dieu est entrée dans le cœur des gens. Ou lisez une lettre d'un enfant qui vous remercie parce que votre don s'est acheté. Avec votre don, il a permis de s'acheter des nouveaux vêtements parce que ceux qu'il avait étaient absolument irrécupérables. Ces gens ont les mots qui donnent le sens d'accomplissement. Ces mots qui font grandir à l'intérieur. C'est ce que la générosité produit. Il donne un sentiment d'accomplissement. Utiliser les ressources que Dieu nous donne pour quelque chose de plus grand que nous, nous donne une perspective. Perspective que le monde a bien besoin. Cette perspective qui manque tellement au monde. En dessin, une perspective, c'est quelque chose qui nous montre un autre aspect. On pourrait faire le dessin en deux dimensions, maintenant on le fait en trois dimensions. Une nouvelle perspective. Dans la vie, c'est plus que... Une autre perspective, c'est d'avoir une vision plus large que notre environnement immédiat. On peut penser pour nous-mêmes, mais une autre perspective, c'est d'étendre notre vision, de regarder plus loin, à gauche, à droite, et plus loin aussi. C'est d'avoir une vue mondiale. La vie, c'est plus que d'avoir et d'atteindre. C'est plus que ça. La pression extérieure, notre propre cœur, qui peut avoir certains problèmes à faire la différence entre le besoin et les extras. Tout ça, parfois, ça nous emmène à vaciller entre l'égoïsme et le renoncement. Entre le fait d'accomplir mon désir et celui de Dieu. Christ avait bien compris la lutte qui existe dans notre cœur. Lorsqu'il disait dans Matthieu 6, 21, « Là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Il y a un trésor à trouver lorsqu'on se vide de soi-même, lorsqu'on regarde à l'autre. Il y a un trésor à trouver là. Christ nous emmène sur ce grand sujet du bien des biens matériels. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, c'est un sujet qui est largement traité. Les biens matériels, l'argent. Il nous prévient que notre avenir éternel dépend en partie de l'endroit où l'on place notre trésor. En d'autres mots, à quoi va servir notre trésor? Car invariablement, il y attire notre cœur. Le commentaire d'un frère, et je reprends un peu ce que Michel a dit ce matin, différemment. Okay? Dieu sauve les différents aspects de notre vie. Premièrement, il sauve notre corps, parce qu'un jour, il va nous donner un corps renouvelé, un corps transformé. Il sauve notre âme aussi, parce qu'il y a mis son esprit. Et il sauve aussi notre portefeuille, parce qu'il est directement lié au cœur. Il y a une chaîne entre mon cœur et mon portefeuille. Des mailles d'un demi-pouce. Et lorsque Dieu dit à quelque part, « Fais attention à ce qui est ton cœur, parce que là va être ton trésor aussi. » Ce trésor va changer notre manière de voir le monde ou pas. Ce trésor va changer notre manière de négocier avec ce monde ou pas. Selon où est-ce qu'on le place. Se vider soi-même pour être rafraîchi, pour être comblé. Et la parole nous invite à changer notre perspective, à changer notre vision. Celle d'acquérir de nous-mêmes, à pourvoir à ceux qui ont besoin. Changer de perspective, ce n'est pas un petit changement. C'est pas juste, je vais rajouter ça dans mon agenda tel jour. C'est un changement de vie. C'est une nouvelle vision de notre vie, la perspective. Et finalement, nous sommes dans la joie. Parce que nous sommes partenaires avec Dieu. Nous sommes en partenariat. J'ai de la misère à dire ce mot-là. Je l'écris là, puis je dis, comment je vais faire pour le dire? Dans le scénario de nos vies, il y a nous, Mais on n'est pas les acteurs principaux de nos vies. C'est pas nous la vedette, là. C'est pas nous, dans le générique, c'est pas nous qui arrivons en premier, là. C'est Dieu. C'est Dieu qui arrive en premier. Nous ne sommes que les figurants. Et c'est Dieu qui dirige notre vie. Et l'Église de Dieu est un plateau important de notre vie. C'est quoi notre pensée à propos de cette Église et de notre paternariat dans cette Église? Lorsque l'on donne à l'Assemblée, on ne donne pas seulement pour couvrir les dépenses de 2,25 plus bien. Ça va être bon pour payer le chauffage, ça va être bon pour payer Adama. Pas juste ça. Chaque sou donné à l'Église est un investissement dans l'éternité. Chaque sou donné a une valeur éternelle. Tout ce qu'on peut posséder sur terre, absolument tout ce qu'on peut posséder, prendra fin un jour. Et bien souvent, avant même qu'on le pense. Je regarde mon char et je me dis, il ne t'offrira pas la fin de sa vie. Mais ici, il est question d'un investissement qui ne finira jamais. Parce qu'on fait partie de cette Église de 2,25 Lupien, nous sommes une part de l'Église universelle, de l'Église globale alentour de la Terre. Malgré tout, on n'est pas toujours conscient des problèmes que les chrétiens en Chine ou en Inde vivent. Ou du travail de réconciliation que l'Évangile fait et continue de faire à travers les différents peuples d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie, ou encore des histoires de vie changées par l'Évangile dans des régions aux noms imprononçables qui ont un grand défi à surmonter. On n'est pas toujours très, très conscient de cela. Mais lorsqu'on donne, même juste à notre église locale, même juste l'argent que l'on met dans le petit sac rouge qui passe à travers nous tous les dimanches, on donne à des gens qui ont la même cause que nous. On aide leur cause. Nous leur faisons du bien. Directement et indirectement. Nous faisons partie d'un ensemble. Nous donnons en ayant l'esprit la même mission qu'eux. On fait partie d'une communauté globale. On n'est pas isolé dans notre petit coin à dire on est les seuls au monde de même. On fait partie d'un ensemble. Une communauté unie dans un but commun, dans une mission unifiée que Dieu appelle la Grande Commission. Lorsqu'on donne, on va plus loin que nous-mêmes, pour le bien du plus grand appel que le monde a de besoin, l'Évangile. Le danger qui nous guette, c'est que notre confort, notre situation, et je vous garantis qu'on a une belle église. On est confortable ici, n'est-ce pas? Oui, on est confortable. Mais le danger, c'est que notre confort, notre situation agréable, nous fasse oublier qu'il y a plus grand autour de nous. Lorsqu'on donne, les croyants de toute race, toute couleur, toute nationalité sont affermis. Nous sommes une partie de quelque chose de plus grand. Même si on n'a pas ce sentiment-là, on fait quand même partie d'un ensemble. Notre message est que le monde a le plus besoin d'entendre qui est l'Évangile de Christ. Par nos dons, on est tous allés en Suisse avec Adama. Vous vous rappelez les montagnes, les chocolats, vous rappelez ça? Par nos dons, on a tous été en Suisse avec Adama. Par nos dons, par nos prières. Par nos dons, on a envoyé des effets aux Indes à le Noël passé. Par nos dons, il y a quelques années, Un groupe d'hommes est allé bâtir des maisons en Haïti. Tu te rappelles, Sam? Par nos dons, on participe à un groupe qui s'appelle Réseau, qui aide les gens, qui étendent l'Évangile à travers les régions éloignées du Québec. Par nos dons, on a un programme missionnaire qui aide des missionnaires partout dans le monde. Voyez-vous l'impact? Et j'aimerais continuer. J'aimerais en rajouter. J'aimerais manquer de temps pour le dire. Par nos dons, nous faisons partie de l'ensemble. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais 19-20 ans, il y a un de mes amis qui a commencé sa carrière en assurance. Et il m'a vendu un forfait d'assurance avec dividende. Je n'ai pas le nom exact de comment ça s'appelle, probablement qu'il y en a qui me dirait le nom exact. Mais avec ça, tu étais assuré, puis tu pouvais retirer de l'argent après un certain temps. Là, il me dit, je te le dis, là, si tu gardes ça là, 20 ans ou 30 ans, là, dans 30 ans d'ici, là, ça va valoir une fortune. Ça va se multiplier, puis ça va produire de quoi. Là, tu le regardes et dis, waouh, je vais-tu être capable de toffer? 30 ans? Je vous dis, là, j'aurais dû. Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les placements que l'on fait aujourd'hui dans l'Église, ils ne vont pas rapporter après 20 ou 30 ans, ils rapportent tout de suite pendant 20 ou 30 millions d'années. Puis ça va être juste le début. Parce qu'après ça, ils vont doubler. Ça, j'ai pas le fin mot de ça. Mais je suis convaincu d'une chose. C'est que ce que l'on met dans les petites poches, là, c'est ce qui est le plus payant. J'ai eu de la misère avec la conclusion. Je me suis installé là, j'ai dit, quelle conclusion je pourrais emmener? Puis là, je me suis mis à prier. Puis il y a un verset qui m'est venu à l'esprit. Verset connu. Et j'ai pensé, j'ai dit, voilà ce que je vais faire. Le verset de Malachie 3:10, « Apportez à la maison toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Il m'arrive de temps à autre, et j'aime faire l'exercice, parce que je prends un verset et je prie sur ce verset-là. Je prie avec ce verset-là et je le transforme, je l'adapte à 2016. Et ce que j'ai prié là, c'est, Seigneur, permets-moi d'apporter. Et ça, c'est une prière. Et ça va être ma conclusion. Seigneur, permets-moi d'apporter ce que j'ai mis sur mon cœur, ce que tu as mis sur mon cœur. Permets-moi d'être fidèle dans cela. Afin que je puisse apporter à ta maison ce que tu m'as donné. Afin que la nourriture spirituelle soit pour tout le monde. Permets, Seigneur, que l'on soit partenaire avec toi dans ce grand défi. De voir les écluses des cieux s'ouvrir et de voir les bénédictions d'abondance se répandre sur tous les peuples qui te cherchent sur la terre. Nous sommes une partie de cet ensemble-là. Et gloire à Dieu que nous le soyons. Et que le Seigneur soit béni, et que les gens de cette terre soient bénis par le saint sou que je vais mettre au centre. Amen.
Avant de prier, Nous aimerons aussi, merci Denis pour cet enseignement qui a été bien donné, qui nous fait du bien. On veut être partenaire avec Dieu. Et nous voudrons remercier aussi le groupe Ecclésias qui est venu nous donner un temps de louange et qui nous ont conduits. On veut dire merci pour votre participation. Et vous savez, chaque fois que vous venez ici, nous sommes contents de vous voir parmi nous. Aimeriez-vous rester avec nous? On va vous donner des cartes de membres à signer. On veut vous garder pour nous. Alors, donc, on va prier. Pour, tenez-vous de vous, s'il vous plaît. On va prier pour terminer ce temps. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons être partenaires avec toi, comme mon frère vient de le dire. Nous voudrons être partenaires avec le Dieu des cieux qui bénit la terre. Et être partenaires pour que nos frères et nos sœurs dans le monde qui ont besoin soient soutenus et ne soient pas vraiment dans la misère. Tu nous bénis pour que nous soyons une bénédiction. C'est ce que tu as dit à Abraham. Je ferai de toi une bénédiction pour toutes les nations. Alors Seigneur, dans la postérité d'Abraham, spirituellement, nous en faisons partie. Et nous voudrons continuer d'être une bénédiction, non seulement pour l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, pour notre ville, pour notre communauté, pour notre entourage, mais pour le monde entier, notre Dieu. Alors, merci pour ce qui a été fait. Merci pour ce qui est en train d'être fait. Merci pour ce qui se fera dans les jours, dans les mois et dans les années à venir. Et soutiens chacun de nous. Fortifie-nous. Et Seigneur, que nos mains ne restent pas vides. Que nous puissions t'en donner autant que possible, mais aussi pour le royaume des cieux, pour l'œuvre de Dieu. Bénis cette journée et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.